Et roi Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous, il est 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila en réunion avec ses proches à la veille de la date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle. Un meeting de l'opposition malienne s'est tenu à Bamako. Les opposants demandent le départ du ministre chargé des élections. Dans nos dossiers du jour, on ira en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara appelle au renouveau de la classe politique.
Le chef de l'État montre le souci de voir la relève politique se faire. L'insistance que le président de la République met à faire un appel du pied à la nouvelle génération.
Et au Cameroun, 9 candidats sont retenus dans la course à la présidence du 7 octobre.
Au vu de la liste des 28 candidats qui avaient initialement déposé leur dossier avant le retrait volontaire des candidats Isaac Feuze, il n'y a pas de grande surprise.
Et dans la minute écho, détour par le Maroc qui accepte d'importer de la viande de volaille américaine et opération coup de balai dans l'arbitrage africain dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, c'est demain la date limite du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre. On ne connaît toujours pas le candidat de la majorité, mais le président Kabila a réuni les cadres de la coalition au pouvoir. De son côté, l'opposant Félix Tshisekedi devrait déposer aujourd'hui son dossier. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La surprise de la journée aura été le dépôt de la candidature de Tryphon Kinkyemoulumba, ancien ministre de Joseph Kabila et haut cadre de la majorité présidentielle qui en 2016 créait le regroupement Kabila Désir, rappelant que la RDC avait encore besoin de Joseph Kabila et qu'il devait poursuivre son œuvre à la tête du pays. Contre la volonté de sa famille politique, il a finalement décidé de se porter candidat à la magistrature suprême. Comme Kinkyemoulumba, Freddy Matungulu, économiste, professeur d'université et ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international, a également déposé sa candidature au nom de la plateforme électorale dénommée Synergie électorale Notre Congo. Mais le plus attendu de la journée, c'était Félix Tshisekedi. Le président de l'UDPS Tshisekedi est arrivé en fin d'après-midi au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer son dossier de candidature, accompagné de nombreux militants de son parti. Pendant ce temps, autour de Joseph Kabila se poursuit dans sa ferme des discussions sur le candidat du Front commun pour le Congo. L'opinion devrait être fixée dans les prochaines heures sur le choix du camp présidentiel pour succéder à Joseph Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, devrait être libérée de prison dès demain, mercredi, selon son avocat, après l'annonce de son amnistie par le président Alassane Ouattara. Selon maître Rodrigue Dadier, elle a été ravie d'apprendre la nouvelle de sa libération. Sa priorité actuelle est de retrouver sa famille et ses proches et de passer avec eux des moments d'intimité et de retrouvailles. Fin de citation. Simone Gbagbo est âgée de 69 ans. Elle a été amnistie en même temps que 800 autres personnes. Le PDCI-RDA salue la libération des prisonniers politiques. C'est ce qu'a déclaré son chef, l'ancien président Henri Konan Bédié. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Mali, l'opposition organise un grand meeting à Bamako. Elle demande le départ du ministre de l'administration du territoire chargé de l'organisation des élections. Ses opposants accusent le pouvoir d'avoir fraudé en faveur du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui sera opposé à Soumaïla Cissé au second tour. En direct de Bamako, Kassim Traoré.
Le meeting tant attendu a commencé. Malgré la pluie, les partisans, sympathisants des candidats sont venus. Ils ont rempli les 30 000 places de la salle Bazoumana Sissoko. Le ton a été donné par Soumaïla Cissé, qui a dégagé les grandes lignes de ce meeting, qui sera consacré sur la dénonciation de la fraude massive, les décomptes des voix, bureau de vote par bureau de vote, mais surtout la réquisition des 9 sages de la Cour constitutionnelle qui doivent rendre demain public les résultats définitifs du scrutin. En tout cas, au niveau du palais de la culture, sur la vingtaine de candidats annoncés, 16 ont répondu présents et les autres se sont fait représenter. Ici, c'est la parole maintenant aux différents représentants des candidats avant que ceux présents ne prennent la parole pour décliner et le tout sera conclu par une déclaration du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, une déclaration tant attendue ici car déterminera la suite de la contestation au niveau de ces 20 partis politiques.
C'était Kassim Traoré, notre correspondant joint à Bamako. Et par ailleurs, les observateurs de l'Union européenne ont appelé le gouvernement malien à observer davantage de transparence et à garantir l'accès au bureau de vote au second tour de la présidentielle dimanche prochain. Il serait souhaitable que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires de manière à garantir le droit de vote à tous les électeurs, a souligné dans un communiqué la chef de la mission de l'Union européenne, Cécile Kyenge. Au Cameroun, 9 candidats, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre, selon une liste publiée par la commission électorale et les CAM. Outre Biya, les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi du Social Democratic Front, SDF, le principal parti d'opposition, et Garga Amandaji de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, arrivé troisième lors de la dernière présidentielle de 2011. Nous y reviendrons également dans la partie magazine. Au Nigeria, la tension à l'Assemblée nationale a pris une autre dimension ce matin alors que les sénateurs du parti au pouvoir, l'APC, menacent de destituer le président du Sénat qui a fait défection la semaine dernière pour l'opposition. Les forces de sécurité sont intervenues au Parlement, bloquant l'entrée aux parlementaires. Des détails avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Tout a commencé le 31 juillet dernier quand le président du Sénat, Bukola Saraki, a claqué la porte du parti au pouvoir APC du président Muhammadu Buhari. Il n'est pas parti seul puisque plusieurs dizaines d'autres sénateurs et députés ainsi que certains gouverneurs comme ceux de Sokoto et de Benue ont suivi le président du Sénat nigérian. Depuis, la tension est palpable au Parlement et Bukola Saraki est aujourd'hui menacé de destitution par les sénateurs pro-Buhari. Hier, dans un communiqué, Saraki a convoqué une réunion qui devait se tenir ce mardi dans les locaux du Parlement fédéral. Mais ce matin, à la surprise générale, les forces de sécurité ont bloqué l'entrée du Parlement nigérian, empêchant ainsi les législateurs et autres personnes d'entrer dans l'enceinte pendant quelques heures. Des hommes armés portant l'uniforme noir du département de la sécurité de l'État se trouvaient devant le bâtiment où ils ont été rejoints plus tard par des policiers. Les législateurs qui étaient venus avec l'espoir d'assister à la réunion se sont vus refuser l'entrée à l'Assemblée par les agents de sécurité. Question: qui a ordonné la présence policière du Parlement? En l'absence du président Buhari en congé à Londres, le président par intérim Yemi Osinbajo a limogé le directeur des services de renseignement, Lawal Moussa Daoura. Ce dernier indique pourtant qu'il n'a fait que suivre un ordre de la haute hiérarchie de l'État. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et toujours au Nigeria, 7 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le nord-est du pays. Les insurgés sont arrivés hier soir à bord de pick-up et à moto dans le village de Mundouri dans l'état du Borno où ils ont massacré 7 civils qui tentaient de fuir selon un chef de milice local, Oumar Hari. Un résident de la localité a indiqué que les djihadistes armés de fusils d'assaut et de lance-roquettes ont ouvert le feu indistinctement dans cette localité située à une dizaine de kilomètres seulement de la capitale du Borno, Maïdougouri. Au Gabon, les élections législatives, plusieurs fois reportées depuis 2 ans, auront finalement lieu les 6 et 27 octobre. Ce scrutin sera le premier depuis la présidentielle contestée de 2016 qui avait donné lieu à des violences meurtrières.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, les sanctions américaines contre l'Iran entrées en vigueur ce mardi ont suscité une vague de réactions dans le monde, à commencer par les Iraniens premiers concernés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Hassan Rouhani a crié à la guerre psychologique et écarté toute nouvelle négociation réclamée par les États-Unis. Les Européens, signataires de l'accord de 2015, se disent déterminés à sauver le texte. Le groupe Daimler, constructeur automobile allemand, a annoncé avoir cessé ses activités en Iran. L'Union européenne a pourtant activé sa législation interdisant aux entreprises européennes de se conformer aux sanctions américaines. La Russie dit être déçue, assurant qu'elle fera tout pour sauver l'accord sur le nucléaire. Ankara a exprimé sa solidarité avec Téhéran et a qualifié ses sanctions d'illégales. Cette vague de sanctions comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, le secteur automobile et l'aviation, forçant Airbus et Boeing à résilier leurs contrats. Le président Donald Trump a lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à vouloir faire du commerce avec l'Iran. En novembre, une seconde phase de sanctions va toucher le secteur pétrolier et gazier, ainsi que la banque centrale iranienne.
Et la Turquie va envoyer dans les jours qui viennent une délégation aux États-Unis pour tenter de désamorcer la crise diplomatique qui a mis à rude épreuve la monnaie turque. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, avait eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Mike Pompeo la semaine dernière où Washington a pris des sanctions contre deux ministres turcs et Ankara a réagi avec des mesures similaires. Les États-Unis exigent la libération d'un pasteur américain. Une vingtaine d'Afghans amputés de guerre pour certains en fauteuil roulant ou équipés de béquilles se sont lancés mardi dans une marche pour exiger la fin du conflit. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Maniratida.
Les pays membres de la CEMAC ont définitivement liquidé la compagnie aérienne Air CEMAC. Les fonds de liquidation de 7,569 milliards de francs CFA vont être affectés au fonds de développement communautaire de la BAC. Lancé en 2001, la compagnie avait pour vocation de desservir les capitales des 6 pays membres et une vingtaine de villes africaines, avant d'envisager le développement des lignes européennes. Le Maroc a accepté pour la première fois d'importer de la viande de volaille produite aux États-Unis. Rabat interdisait jusqu'à présent les importations de cette catégorie d'aliments. Le marché marocain devrait représenter environ 10 millions de dollars par an dans un premier temps. Washington et Rabat ont travaillé ensemble pour apporter des garanties sur la sécurité alimentaire des produits concernés. Le constructeur automobile allemand Daimler cesse jusqu'à nouvel ordre ses activités en Iran. Le numéro 1 mondial de la voiture haut de gamme et des camions prévoyait notamment la fabrication et la vente de camions Mercedes via un partenariat avec des entreprises locales. Mais les sanctions économiques américaines rétablies au mardi interdisent les transactions financières, les importations de matières premières et pénalisent les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Quiconque fait des affaires avec l'Iran ne fera pas d'affaires avec les États-Unis, a averti le président Donald Trump.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pineau.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Et on commence par un coup de balai dans l'arbitrage africain.
Oui, la Confédération africaine de football a suspendu 7 arbitres et un instructeur technique ghanéen après des faits de corruption relayés par la presse. Les 8 professionnels ghanéens ont été suspendus pour une période de 10 ans à l'exception de David Larrié, un arbitre assistant exclu à vie. Dans son communiqué, la CAF a également annoncé la suspension provisoire jusqu'à l'examen de leur cas par le jury disciplinaire de 14 autres arbitres originaires du Ghana mais aussi du Congo et du Sénégal.
Saïdo Berahino pourra jouer avec le Burundi lors des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Oui, annoncé hier de la FIFA, le joueur de Stoke City né à Bujumbura, mais international anglais dans toutes les catégories de jeunes, a reçu l'aval de la Fédération internationale de football pour porter le maillot de son pays natal en compétition officielle.
Et la rubrique transfert.
Simon Moses s'est engagé avec Levante pour les 5 prochaines saisons. Le club espagnol continue de se renforcer après la signature de Sancit Pjanic la semaine dernière. L'attaquant international nigérian qui avait manqué la Coupe du Monde à cause d'une blessure à la cuisse arrive en provenance de la Gantoise où il évoluait depuis 2015 avec un titre de champion de Belgique décroché en 2016.
Et Nicolas, un autre nigérian à la tête de la sélection tanzanienne.
La Tanzanie qui mise sur une ancienne gloire du football africain pour espérer se qualifier à la CAN 2019. Emmanuel Amunike, le Nigérian, sera le coach de l'équipe nationale tanzanienne pour les deux prochaines années. Sa dernière expérience de coach a eu lieu au Soudan où il dirigeait à Khartoum.
Et enfin, tour cycliste du Rwanda.
Ce mardi, la troisième étape de 195 km entre Houye et Musanze, c'est le Belge Julian Elman qui s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur l'Espagnol David Lozano et le Sud-Africain Calvin Beneke. Au général, le Rwandais Samuel Mugisha reste en jaune. À suivre demain la quatrième étape entre Musanze et Karonji.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin pour vous présenter les dossiers du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier soir une large amnistie pour 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Dans son discours la veille de la fête nationale, Ouattara a beaucoup insisté en vue des élections de 2020 sur le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Pour une analyse, Idriss Fall a joint à Abidjan Gosé Fernand Julien, président du réseau des associations de la société civile ivoirienne.
En tant que père de la nation, le chef de l'État montre le souci de voir la relève politique se faire. L'insistance que le président de la République met à faire un appel du pied à la nouvelle génération, il est désireux de partir sans doute en 2020, mais à condition bien sûr que ce soit au profit d'une nouvelle génération et non d'une génération de même d'acabit que lui.
Vous faites allusion à Henri Konan Bédié.
Ça peut être cela. La rumeur prête au président Bédié l'intention de briguer la présidence en 2020. On peut aussi se mettre dans l'hypothèse où la Cour pénale internationale libérerait le président Gbagbo et qu'il se retrouverait dans la posture de celui qui peut être un nouveau candidat, étant donné que toutes ces barrières de limitation d'âge ont été levées dans la constitution de la Troisième République. C'est un appel du pied à tous ces adversaires politiques, dont certains ont été de proches alliés, pour dire, moi je veux bien partir, mais je souhaite que nous cédions la place, nous tous ensemble, pas moi seul.
Jeune génération, c'est qui? C'est Ahmed Bakayoko? C'est Guillaume Soro? C'est Kakabé? C'est qui?
Je pense que le président veut d'abord déblayer le terrain. Il a sans doute son idée derrière la tête, mais j'estime que cette approche-là est trop teintée de paternalisme. Elle est trop dirigiste. Il faut au contraire, entre maintenant et 2020, ouvrir les vannes des débats démocratiques, à l'intérieur des différents partis politiques, que ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur puissent parler. Alors là, on verrait de nouveaux jeunes qui vont alors monter au créneau, s'exprimer et faire valoir leurs différences d'opinion, leurs différences de perception et de vision. La démocratie à l'intérieur des partis politiques et la compétition démocratique entre les partis politiques reste grâce à une télévision nationale, une radio nationale, et à Fraternité Matin, que la presse écrit d'État libéralisé, libéré de l'emprise des politiques. C'est cette approche-là qui pourrait favoriser l'avènement de gens qui soient de l'ancienne ou de la nouvelle génération, qu'importe, qui auront frappé l'imagination des Ivoiriens et qui auront attiré leur attention. Plutôt que cette approche où quelqu'un, quelle que soit son intelligence, sa maestria, sa sagesse, va toujours pointer du doigt celui qui lui paraît le mieux indiqué pour assurer la relève. Mais on a vu dans tous les pays où cela s'est fait, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, où les pères fondateurs ont légué le pouvoir à d'autres qu'ils ont désignés eux-mêmes, on a vu que les choses ne sont pas passées de la manière dont ces pères fondateurs l'avaient prévu.
C'était Ngozé Fernand Julien, président du réseau des associations de la société civile ivoirienne. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24. Et au Cameroun, 9 candidats sur 28, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre. Les principaux opposants retenus sont Joshua Aussi, du SDF, et Garja Manadji, de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Cabral Libi, du Parti Univers, a appelé une candidature unique, car le scrutin est à un seul tour. Akeremouna est en négociation avec d'autres opposants pour une coalition. Nathalie Barge a joint le politologue de Moussa Njoya.
Au vu de la liste des 28 candidats qui avaient initialement déposé leur dossier, avant le retrait volontaire de candidat Isaac Feze, il n'y a pas de grande surprise parce que les 9 candidats qui ont été retenus sont ceux qui ont premièrement eu la capacité de verser les 30 millions de cautions, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats, notamment les candidats indépendants, mais également ceux qui remplissaient les conditions de l'article 121 du Code électoral camerounais, à savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investisse ait au moins un conseiller municipal ou un parlementaire, soit un député ou un sénateur élu. La deuxième chose, c'est qu'en dehors des grands routiers, Amoun Bandjoya et Garga Aman Adi, ainsi que Paul Biya, le reste des 6 candidats sont essentiellement des novices cette fois-ci qui s'engagent à la course pour la présidentielle.
Par rapport au SDF, hein, le fait que John Frundi ne soit plus dans la course finalement et que ce soit donc Joshua aussi qui prenne la relève, qu'auriez-vous à dire ?
Nous avons déjà eu des cas où il y a des passations de témoins à la tête des partis politiques, notamment avec Madame de Kane Anissé. Mais c'est la première fois qu'un président d'un parti politique aussi important que première force de l'opposition accepte de ne pas concourir pour laisser la place à un autre et remplir davantage la condition de jeunesse. Mais il se fait voler la vedette par des candidats. En principe, on l'appareil de moins d'importance tels que Maurice Kamto ou même Cabral Ibi qui au fond une plus fabrication médiatique dans une large mesure.
Par rapport à cette demande de coalition pour un candidat unique, est-ce que cette fois-ci on pourrait avoir une chance avant le 7 octobre pour que cela se produise ou est-ce que c'est vraiment une utopie ?
Candidat unique, c'est une utopie. Est-ce qu'un certain nombre d'acteurs, 1, 2, 3 candidats coalisent pour faire face au président Paul Biya, cela est tout à fait possible. Mais compter avoir un candidat unique de l'opposition avant la date de la présidentielle est une utopie.
Et si le président sortant l'emportait, est-ce que, selon vous, cela permettrait de régler ou non la crise sécuritaire au Cameroun ?
Cela dépendra de 2 choses. La première chose, quel est le sens que la société donnera à sa victoire? Est-ce qu'on estimera que c'est une victoire méritée ou une victoire volée? Cela conditionnera la réponse de la société globalement. Deuxième chose, est-ce qu'il profitera de cette campagne électorale pour adresser un ensemble de préoccupations des populations anglophones? Donc, ici, les facteurs sont assez nombreux, mais dépendra également de ce que l'opposition prendra comme option. Est-ce qu'ils prendront d'une éventuelle victoire du président Biya ou bien est-ce qu'ils opteront pour la contestation de celle-ci?
C'était le professeur Moussa Njoya, joint à Yaoundé au Cameroun.
Le Monde aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews et des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voaafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Et aujourd'hui marque le 20e anniversaire des attentats perpétrés contre des ambassades américaines en Afrique de l'Est. Ces attentats ont fait plus de 200 morts au Kenya et en Tanzanie. À Nairobi, à Dar es Salaam, les autorités américaines et locales ont participé aujourd'hui aux cérémonies commémoratives. Un récit de Lily Hotling.
Au matin du 7 août 1998, deux attentats quasi simultanés ont secoué les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, faisant 224 morts et près de 4000 blessés. À 10h30, les attaquants ont tenté de planter un camion rempli d'explosifs au garage du sous-sol de l'ambassade à Nairobi. L'explosion, qui a retenti dans le quartier des affaires, a gravement endommagé l'ambassade, ainsi que plusieurs bâtiments voisins. Paul Kaluku Lima, un commerçant, se rappelle de cette journée.
J'ai entendu la petite explosion. Il est d'une plus grande. C'est là où tout a éclaté. Certaines personnes ont été touchées par les éclats d'obus, la plupart par des débris, par des bâtiments. Il y avait des fragments de verre partout.
Quelques minutes après, un autre camion a explosé devant l'ambassade américaine à Dar es Salaam. Tristan Isa, un chauffeur de l'ambassade, y a été blessé.
Au début, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai entendu une explosion et j'ai été projeté en l'air. C'était comme un rêve. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital de Mouvimbili.
Monica Kapilima aussi travaillait à l'ambassade.
Je me rappelle avoir vu un bâtiment en feu, des arbres tombés et entendu des alarmes de voitures. C'était le chaos. J'étais choquée quand j'ai appris que c'était une bombe. J'étais très confuse.
Quelques jours plus tard, les officiels du renseignement américain ont conclu que les agents d'Al-Qaïda avaient planifié et exécuté les deux attentats. Mwenda Mbijiwe était membre des forces aériennes du Kenya et un des premiers secouristes à l'ambassade.
C'était la première fois que le terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui avait atteint notre région. Même si nous savions qu'il y avait du terrorisme dans le monde, ça n'avait pas atteint notre région. Donc nos forces de sécurité n'étaient quoi préparées.
Sur le site de l'ancienne ambassade des États-Unis à Nairobi se trouve maintenant un parc commémoratif. À l'intérieur, un mur où sont inscrits les noms des victimes, pour que tous ceux qui visitent puissent apprendre ce qui s'est passé et se souvenir des vies perdues lors de cette journée meurtrière d'août 98.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le Monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le Monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le Monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Les États-Unis ont rétabli les sanctions économiques contre l'Iran après le retrait en mai du président Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. En plus d'affecter durement l'économie iranienne, ces sanctions compromettent les activités des multinationales européennes en Iran. Le président américain a d'ailleurs lancé un avertissement au pays qui persisterait à commercer avec l'Iran. Morgan Guerriek a joint Brian Neubert, un des porte-parole du département d'État américain.
L'objectif principal, c'est changer le comportement du régime iranien. L'accord sur le nucléaire iranien était insuffisante, ça n'a pas pu protéger les intérêts, la sécurité du peuple américain. Mais à part question nucléaire, il y a financement et soutien pour les groupes terroristes dans la région. Le comportement déstabilisatrice du gouvernement iranien n'est pas acceptable. Ça pose menace dans la région et donc la stratégie, c'est isoler le régime iranien et enfin le presser d'utiliser leur ressources pour aider les peuples iraniens et pas pour déstabiliser la région.
Alors ces sanctions interviennent après que Washington sorte unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord signé par d'autres pays qui ne voient pas ces sanctions d'un bon œil. Que leur répondez-vous ?
L'accord sur le nucléaire iranien n'était pas acceptable, n'était pas suffisant pour empêcher les efforts du régime iranien de développer des armes.
Mais les sanctions prises par Washington n'engagent pas que les États-Unis, car elles affectent les relations économiques qu'ont les Russes et les Européens avec l'Iran.
Il nous faut coordonner avec nos alliés, avec nos partenaires en Europe et ailleurs. C'est quelque chose que les États-Unis ont fait depuis le début. Mais l'essentiel, c'est que en réimposant des sanctions afin de isoler le régime iranien, ça veut dire que les sociétés et les pays risquent certaines conséquences s'ils continuent leurs activités économiques avec l'Iran.
C'est un des objectifs des sanctions.
Oui, absolument. Le comportement déstabilisatrice du gouvernement iranien n'est pas acceptable. Ça pose une menace dans la région.
Brian Neubert, un des porte-parole du département d'État américain, Johannesburg. Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Michel Joseph à la mise en onde, de Bill Barber à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.